France Inter, le 18-20.
Et c'est le quatrième des téléphones sonnes consacrés à la transition énergétique, aux méthodes, aux solutions, aux échecs, aux réussites aussi. Et ce soir, un constat d'abord: en l'état, la France va manquer ses objectifs climat. C'est un document de travail du ministère de la Transition écologique qui le dit. On parle du volume maximum d'émissions de gaz à effet de serre, le déploiement des énergies renouvelables, on en a parlé, c'était l'objectif affiché d'Emmanuel Macron, on sera à 32% en 2030. Et là aussi, on est peut-être un peu derrière, mais ça, tout le monde le sait en fait. Et par ailleurs, c'est facile pour personne. La COP24 qui s'ouvre ce week-end rappellera ces chiffres pour nous comme pour d'autres. Mais vous savez ce que c'est quand on se regarde qu'on se désole, et quand on se compare qu'on se rassure. Comment font les autres? Il y a toujours pire, il y a toujours plus en retard, il y a toujours plus indifférent ou très différent. Et puis il y a par exemple la Suède qui a la transition énergétique la plus avancée d'Europe, qui aura donc fini même cette transition cette année, nous dit-on, qui a instauré une taxe carbone il y a plus de 20 ans déjà, par exemple. Il y a le Portugal qui, à coup de barrage et d'éolien, est parvenu à faire fonctionner intégralement son pays aux renouvelables pendant plusieurs jours. Il y a l'Allemagne et son charbon également, tout aussi voisin. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est un pays vertueux quand on l'est? Qu'est-ce qui a été entamé ailleurs que nous n'avons pas commencé? Qu'est-ce que certains ont compris peut-être avant nous? Est-ce qu'il y a une vraie fracture en Europe entre pays du Nord ou pays du Sud? Est-ce que c'est une question de taxes? Est-ce que c'est une question d'impôts? Est-ce que nous savons apprendre de nos voisins? Et qu'est-ce qu'ils apprennent après tout de nous? On en parle ensemble, soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Alexandre, bonsoir, c'est vous le premier. Bienvenue Alexandre.
Bonsoir Alexandre de Paris 14. Qu'est-ce qui marche bien chez nos voisins en matière de lutte contre le réchauffement climatique? Quelles sont les bonnes idées à prendre chez nos voisins? Et pourquoi les 10 bonnes idées qui sont en application chez nos voisins ne marcheraient-elles pas en France?
Eh ben voilà, vous avez bien résumé ce qu'on va se raconter pendant tout ce téléphone sonne, Alexandre. Merci beaucoup pour ce démarrage, pour en discuter autour de la table jusqu'à 20h. Cédric Philibert est là, bonsoir.
Bonsoir.
Analyste à la division des énergies renouvelables à l'Agence internationale de l'énergie. Bonsoir, Neil Makarov. Vous êtes responsable des politiques européennes au réseau Action Climat. Et en ligne, on a Julien Morel avec nous. Bonsoir, monsieur Morel.
Bonsoir.
Vous êtes analyste climat à l'Agence suédoise de l'environnement. On parlera beaucoup de Suède vraisemblablement ce soir, si j'en crois les questions que je vois ici et là. Et bonsoir à vous, Sandy Dauphin, bonsoir, qui êtes là aussi, spécialiste environnement de France Inter. Est-ce qu'on peut essayer de résumer, Cédric Philibert, peut-être en juste quelques idées prises ici et là? Est-ce que réellement, il y a des choses dont on se dit quand on regarde les voisins, mais bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas chez nous? Il y a des choses évidentes ou
oui,
pas hein?
Oui, certainement. Je pense qu'en matière d'économie d'énergie, par exemple, dans la habitat, on n'a pas été très bon jusqu'ici, alors que plusieurs pays d'Europe du Nord ont su industrialiser la rénovation thermique des bâtiments anciens de façon beaucoup plus systématique, avec de l'isolation thermique par l'extérieur, et ça marche, et le rythme de rénovation est bien plus important que chez nous, par exemple. D'autres exemples, on est quand même, on a une très grande façade maritime et on est très en retard sur l'éolien offshore, oui, c'est évident, à côté de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas et de nos voisins, de nombreux voisins. On n'a pas pris le train en marche très très vite et très très fort sur le photovoltaïque. On a quand même une ressource solaire qui est très bonne. On est en train de rattraper ce retard. On s'appuie sur le fait que nos voisins allemands ont démarré plus tôt et ils ont fait réduire les coûts, donc on en profite. Mais bon, c'est bien de le faire. Il était temps de s'y mettre sérieusement. Voilà, je crois qu'il y a...
Donc il y a beaucoup de choses à picorer, au fond, en fait, quand on regarde Neil Makarov.
Oui, tout à fait.
Pardon, je vous en prie.
Oui, on
peut picorer beaucoup.
Il y a beaucoup de bonnes pratiques en Europe pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le transport également, par exemple, le fret ferroviaire, qui est... en France, très peu développé, ou en tout cas qui décroît. Dans d'autres parties de l'Europe, le fret ferroviaire continue d'augmenter, qui est en pleine croissance et transporte de plus en plus de marchandises. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Autriche. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les transporteurs routiers ont une fiscalité qui ne les avantage pas. Et donc les entreprises préfèrent passer par le fret ferroviaire. Ce sont des exemples, par exemple, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport. Et comme vous l'avez très bien dit, sur les énergies renouvelables, la France est le mauvais élève européen. On est avant-dernier, avant le Luxembourg, sur les énergies renouvelables. Et ça, c'est vraiment dramatique parce qu'on a la première capacité d'énergie renouvelable en Europe. Donc, on est extrêmement en retard sur ce point-là.
Et vous l'avez dit, on a une façade maritime, une grosse façade maritime qui nous permettrait de faire des efforts là-dessus. Juste en un mot, parce qu'on va retrouver Julien Morel dans un instant. Je reviens sur ce que vous disiez sur l'habitat, par exemple, Cédric Philibert. Est-ce que c'est purement conjoncturel en fonction du pays? En gros, dans les pays nordiques, on a plus froid. Donc, on est meilleur lorsqu'il s'agit de parler d'isolation, etc. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet, finalement, entre ce qu'on sait faire et la manière dont on vit?
Oui, sans doute, en partie. On peut dire aussi, dans les pays du Nord, on a plus souvent des réseaux de chaleur, on a plus souvent de la cogénération chaleur-électricité. Et on voit maintenant se développer au Danemark, par exemple, qui n'est pas le plus ensoleillé des pays d'Europe, des systèmes de solaire thermique où on accumule la chaleur dans les réseaux de chaleur. C'est collectif, donc ça marche beaucoup mieux que le solaire thermique individuel parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui l'utilisent et on peut avoir des grands stockages qui sont beaucoup plus performants que des petits stockages. Donc on voit se développer des choses effectivement de l'Autriche aux Pays-Bas et au Danemark qu'on ne voit pas chez nous et qui sont extrêmement intéressants.
Et ça, c'est des choses, Julien Morel, qu'on sait faire forcément du côté de la Suède, j'imagine. Il y a autre chose chez vous quand même qui me paraît intéressant, c'est la fiscalité. Il faudra bien qu'on y vienne. Il y a une pression fiscale, y compris sur ces questions-là, en Suède, qui est plus importante qu'ailleurs et qui est peut-être plus facile même à faire adopter ailleurs dans un pays où l'État-providence est beaucoup plus même dans la culture qu'il ne peut l'être chez nous, non ?
Oui, c'est le cas. La différence peut-être en Suède, c'est aussi qu'il y a un dialogue social important, c'est-à-dire que les partis politiques font des accords entre eux. Il y a une tradition aussi du dialogue social avec les parties prenantes. Et ça a mis en place, la taxe carbone a été mise en place dans les années 90, à la suite d'une crise économique. Et donc du coup, c'était une partie du pacte pour reprendre la croissance, de transformer la taxe énergie en une taxe carbone qui pouvait faire en sorte que la ressource biomasse, c'est-à-dire les énormes ressources renouvelables qui sont dans les forêts boréales, puissent être utilisées aussi de façon plus optimale pour les réseaux de chaleur, notamment comme c'était nommé, mais aussi pour l'industrie.
Ce qui est intéressant, et vous allez m'arrêter si je me trompe, en parlant de cette fameuse taxe carbone, effectivement, qui date de 91, c'est que elle a été d'abord moins importante pour les entreprises pour éviter qu'elles pèsent trop, et le prix est en train de s'inverser, en fait. Désormais, ce sont les entreprises qui payent plus et les ménages qui payent moins, ce qui est une manière finalement assez inédite de faire les choses dans le temps, non ?
Alors, il me semble que les ménages payent toujours plus par rapport, c'est-à-dire qu'ils payent la taxe carbone en entière pour leur pétrole, par exemple, le diesel et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des grandes exemptions au début de la taxe carbone pour l'industrie, et ces exemptions sont en train d'être enlevées depuis 2015 pour pouvoir voir une transition énergétique dans l'industrie qui soit plus de long terme. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a eu une grosse transition pour la chaleur et l'électricité, assez peu dans les dernières années pour l'industrie. Et donc c'est une bonne solution d'essayer de voir avec l'industrie comment on peut travailler pour avoir une taxe carbone là aussi.
C'est un peu le grand serpent de mer, évidemment, la taxe carbone où qu'on soit. Moi, je regarde le prix là en Suède, si je me trompe pas, 120 euros par tonne des CO2, ça doit en faire rêver plus d'un, non, Neil Makarov?
Oui, si vous comparez avec la taxe française, on est quand même assez loin du modèle suédois, c'est sûr. Et donc, en termes de rentrée fiscale, ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre aussi pour l'État, pour développer la transition énergétique. Par exemple, en France, on sait qu'on est très en retard sur les économies d'énergie, c'est-à-dire la rénovation du bâtiment, la rénovation en profondeur du bâtiment et des logements. Pourquoi ? Parce qu'on n'investit pas suffisamment aujourd'hui et on n'aide pas suffisamment les ménages, dont les ménages modestes, à rénover leur bâtiment, leur logement en profondeur. Et ça, les économies d'énergie, c'est vraiment la mère des batailles. Pourquoi ? Parce que une fois qu'on aura économisé énormément d'énergie, on pourra effectuer cette transition énergétique pleinement et investir dans le renouvelable également. Mais les deux vont ensemble. Ce sont deux piliers de la transition énergétique. Et le problème, c'est qu'en France, on est très en retard là-dessus.
Bonsoir, Florent.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, Florent. On vous écoute.
Alors je vous appelle, oui, justement, parce qu'on parle du modèle vertueux de la Suède, notamment, et j'ai été très 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 surpris, hein, je suis resté sans voix, justement, en allant en Suède l'an dernier, à Stockholm, j'ai vu des magasins, des grandes boutiques qui avaient les portes grandes ouvertes, comme ça se pratique beaucoup en France. Et je suis complètement sidéré, parce que c'est une aberration économique, écologique. Et faites l'expérience, hein, ouvrez 5 minutes la fenêtre chez vous en plein hiver, et puis voyez un petit peu la baisse de température. Donc voilà, j'étais un peu déçu, je me suis dit, tiens, il y a donc des dérives partout, finalement.
Ah ben, mais c'est presque rassurant, j'allais dire, parce que tout le monde n'est pas totalement parfait, totalement vertueux. Ce qui est intéressant, Cédric Philibert, c'est que on parle beaucoup des pays nordiques. D'abord, est-ce que vraiment il y a un découpage nord-sud ou pas ? Parce qu'on prendra l'exemple du Portugal tout à l'heure, par exemple, et de ses barrages et de son éolien, on est capable de faire pareil dans le sud.
Oui,
donc il y a un nord-sud ou pas ?
Non, je dirais pas il y a un nord-sud au sein de l'Europe. Ce serait effectivement excessivement simplificateur. Vous avez des pays dans le sud qui font bien. L'Italie a longtemps été le deuxième pays pour installer du photovoltaïque. C'est plus le cas maintenant aujourd'hui. Vous avez le Maroc qui a des objectifs ambitieux en termes de. On sort un peu de l'Europe, mais pas tellement.
Il faut plus de rester en Europe, je vous rassure.
Et aujourd'hui, le leader mondial sur l'ensemble des sujets renouvelables, c'est la Chine. Donc voilà, c'est pas ce qu'on appelait ça un pays du Sud avant. Bon, c'est quand même le leader mondial aujourd'hui dans tous les secteurs, dans l'hydraulique, dans le photovoltaïque, dans l'éolien, sauf l'offshore, et qui s'apprête à faire une révolution en termes de bioénergie, qui reste une ressource extrêmement importante et encore trop trop peu utilisée dans beaucoup de pays.
Mais ce que j'entends en vous écoutant, on en parlait tout à l'heure dans Un jour dans le monde au sujet du charbon, effectivement, on se rend bien compte que au-delà de la question écologique, c'est une question politique en fait. C'est la vraie question n'est que politique au final. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle on est en retard ? Vous parliez tout à l'heure du renouvelable, par exemple en France, Neil Makarov, on sera à 32%
oui,
en 2030.
Chez nous, c'est pas le charbon qui a freiné.
Ah non, on est d'accord. Non, je suis bien d'accord.
Ça dépend quand même. Il y a aussi des choix énergétiques qui sont très différents. Bah, l'Allemagne et la France, c'est l'exemple type. On a du mal à avancer en ce moment en Europe parce que on a deux modèles complètement différents. Il y a l'Allemagne qui sort du nucléaire et qui utilise le charbon comme énergie de transition, et puis la France qui mise encore sur le nucléaire. Et donc, par exemple, on parlait de la taxe carbone, mais enfin, la France pousse pour une taxe carbone, mais l'Allemagne n'a pas du tout intérêt à avoir une taxe carbone importante puisqu'elle a des centrales à charbon. Donc il y a un problème, enfin vous me corrigez si j'ai...
Ah bah, d'où la difficulté effectivement qui
c'est
sera...
C'est difficile de se mettre d'accord sur une taxe carbone très très forte entre l'Allemagne et l'Allemagne. Et l'Allemagne, pardon.
Oui, enfin l'Allemagne, elle n'utilise pas du charbon en transition, elle utilise du charbon depuis très longtemps.
Oui.
Et en fait, ses émissions liées au charbon et son utilisation du charbon régressent. Mais il y a eu deux années d'augmentation faible dont la raison principale était absolument pas d'ailleurs le développement des renouvelables, contrairement à ce qu'on a pu lire beaucoup dans la presse française, c'était le fait que le prix du charbon avait baissé, celui du gaz avait augmenté, donc les exploitants utilisaient plus de charbon et moins de gaz. Ça a fait augmenter les émissions un petit peu, elles sont reparties à la baisse. Après, c'est vrai qu'ils ont fait un choix différent du nôtre, c'est-à-dire ils ont fait le choix de sortir du nucléaire plutôt que de sortir du charbon. En tout cas, ils ont mis la priorité sur réduire le nucléaire plutôt que réduire le charbon. Nous avons fait le contraire. On s'emploie à réduire le peu de combustibles fossiles qui reste dans la production électrique plutôt que de réduire le nucléaire. Donc, c'est des choix effectivement différents, mais c'est plutôt un phasage différent, je dirais. Les Allemands sont...
Mais c'est absolument... des choix politiques, c'est même des choix émotionnels. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. L'Allemagne est sortie du nucléaire avec Fukushima. Ça a été une grosse opération à ce moment-là, quelque chose qui avait pesé, y compris sur le reste de l'Europe. Effectivement, c'est un choix émotionnel et politique, au-delà même d'un choix environnemental, au fond.
Il ne faut pas oublier que c'était un choix fait avant.
C'est vrai.
Sur laquelle Mme Merkel était revenue en arrivant aux commandes.
C'était un gros accélérateur.
Et ensuite, elle est revenue sur ce qui était un accord entre tous les partis avant, qui était on sort du nucléaire. Donc, il y avait un substrat quand même, une volonté de sortir du nucléaire qui est plus ancienne que Fukushima, qui date au moins de Tchernobyl.
Et il y a un vrai consensus social autour de la sortie du nucléaire en Allemagne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment même en Allemagne, il y a une commission sur le charbon qui a lieu et qui va décider dans les prochains mois une date de sortie du charbon. Donc on ne peut pas dire
sur lequel ils sont pas d'accord pour l'instant, hein.
Un peu comme
ils ne sont pas d'accord.
C'est
un peu comme nous avec notre nucléaire.
Mais c'est difficile. C'est difficile, évidemment, mais de ce point de vue-là, la France pourrait aider dans le sens où on vit dans une Europe de l'énergie qui est en train de se construire, et malheureusement, l'Allemagne attendait un geste de la France sur le nucléaire, parce qu'en fait, l'Allemagne a peur d'importer du nucléaire français, et les Français ont peur d'importer du charbon allemand. Donc, à un moment, si l'un et l'autre ne font pas un geste l'un envers l'autre, on peut pas avancer vers le haut et avoir un deal gagnant-gagnant sur la transition énergétique entre les deux pays. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et l'Allemagne et la France pourraient vraiment mener la transition énergétique en Europe si elles s'entendaient à coordonner à peu près leur mix énergétique.
Julien Morel, puisque vous êtes en Suède et vous serez le pays vertueux jusqu'à 20h, le mix énergétique en Suède exactement, il se décompose comment ?
Alors il y a à peu près un tiers de biomasse. Après, l'électricité vient à peu près comme en France. Mm-hmm. C'est un grand avantage d'avoir du nucléaire et de l'hydraulique en termes de carbone en tout cas. Et ensuite, il y a à peu près un tiers de pétrole, et c'est le problème principal, c'est-à-dire enlever le pétrole principalement des transports, et sur le long terme, enlever aussi les énergies fossiles de l'industrie.
Parlez-y, pardon, oui, Cédric Philibert. Je voyais que vous vouliez
réagir. La Suède est effectivement en train de regarder les étapes suivantes. Elle a un objectif, je crois, très ambitieux de réduire de 70% d'ici 2030 la consommation d'énergie fossile dans les transports. Et elle s'emploie maintenant à réduire la consommation d'énergie fossile dans l'industrie. Et un exemple parlant, c'est ce que veut faire ce que veulent faire les sidérurgistes suédois. C'est remplacer les hauts fourneaux qui marchent au charbon ou aux coques de charbon par un système de réduction direct des oxydes de fer, qui font des émissions de procédés très importantes, par l'hydrogène. Et cet hydrogène serait produit par des électrolyseurs qui seraient eux-mêmes alimentés par de l'électricité renouvelable, éolienne et hydraulique essentiellement.
Mais du coup, justement, est-ce qu'on regarde, nous, ça, en fait ? Est-ce qu'on se pique des idées les uns les autres ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner ? Est-ce qu'on laisse les Suédois, qui, comme on dit, effectivement, ont quasiment fini leur transition, avancer plus vite que nous, en se disant, ça, on va le prendre, ça, on va pas le prendre,
là,
ça, on le prendra.
La France vient de lancer un plan hydrogène. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu.
Oui.
Elle commence à regarder du côté de cette énergie.
Je ne sais pas si c'est une énergie, c'est éventuellement un vecteur d'énergie, mais aujourd'hui c'est surtout un gaz industriel. Hein. Et ce que la France a fait de bien dans son plan hydrogène, à mon avis, c'est qu'elle a mis au premier plan de ses priorités le fait de décarboner l'hydrogène qu'elle utilise déjà comme produit qui sert à faire des engrais azotés et comme agent dans le raffinage, etc. On utilise beaucoup d'hydrogène dans le monde aujourd'hui, on utilise déjà beaucoup d'hydrogène, ça provoque d'ailleurs des émissions de CO2 très importantes, 1 milliard de tonnes à peu près par an, parce que c'est fait essentiellement à partir du gaz naturel, du nafta, c'est-à-dire du pétrole et du charbon, surtout en Chine. Donc voilà, la première priorité, c'est de décarboner l'hydrogène qu'on utilise déjà. Et après, on verra avoir de nouveaux usages de l'hydrogène quand on aura de l'hydrogène propre.
Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Bonsoir, on vous écoute, allez-y.
Merci pour votre émission. Alors juste, c'est une petite remarque globale. Quand je regarde un peu ce que font nos amis européens, ils font des parcs éoliens, des parcs solaires, etc. Nous, en France, j'ai l'impression que dès qu'on parle d'installer un parc éolien, tout de suite, on entend, il y a des manifestations qui commencent à s'organiser. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que en France où on est facilement contre, en fait, ce système un peu où on cherche à mettre en place des éoliennes et tout de suite, il y a des gens qui se mettent contre ça. J'ai l'impression qu'il y a que chez nous.
Ouais, not in my backyard, comme on dit, c'est-à-dire les éoliennes c'est bien, mais surtout pas chez moi. On entend beaucoup des choses comme ça, effectivement. Merci Adrien. Neil Makarov, est-ce que ça, c'est plus facile à imposer ? Est-ce qu'on en a parlé différemment dans d'autres pays pour qu'ils soient meilleurs, ou est-ce qu'il y a eu des manifs qu'on n'a pas vus finalement ?
Déjà, les Français sont pas forcément opposés aux énergies renouvelables. Il y a 70% des Français qui veulent accélérer le déploiement des énergies renouvelables en France. Donc, ils sont majoritairement favorables aux énergies renouvelables. En Allemagne, pourquoi ça fonctionne, les énergies renouvelables ? Parce que les citoyens se sont engagés dans cette voie. Ils ont créé des énergies citoyennes, c'est-à-dire que les citoyens se sont rassemblés en coopératives. Il y a 900 coopératives en Allemagne qui ont acheté, développé, investi dans les renouvelables. Les Allemands eux-mêmes ont investi 20 milliards d'euros dans les énergies renouvelables. C'est énorme. Et ça a vraiment permis un boom de la transition énergétique en Allemagne, grâce aux énergies citoyennes. C'est-à-dire qu'en France, on a l'habitude de cette idée assez verticale de l'État qui impose un parc, enfin voilà, une centrale nucléaire, un parc éolien.
Bah, le système est très compliqué d'ailleurs. On revend son électricité, qu'on nous revend derrière. C'est très compliqué. Est-ce que c'est plus simple en Allemagne? Est-ce que, en gros, je vais le dire de manière extrêmement béotienne, est-ce que si je plante une éolienne dans mon jardin en Allemagne, je peux produire ma propre électricité? N'exagérons rien, j'imagine.
N'exagérons rien, mais dans tous les cas, les Allemands ont investi dans des parcs solaires, dans la méthanisation. Les agriculteurs sont les premiers en Allemagne à bénéficier de ça parce qu'ils ont investi dans le biogaz, dans le solaire, ce qui leur apporte des revenus complémentaires par rapport à leurs activités agricoles. Donc, il y a une acceptation des renouvelables en Allemagne qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie, les énergies renouvelables bénéficient à tout le monde. Et c'est une vraie démocratie de l'énergie qui est en train de se développer outre-Rhin. Et en France, malheureusement, on n'en est pas du tout à ce stade pour le moment, même si on tend un peu à copier sur notre voisin allemand de ce point de vue-là.
Julien Morel, est-ce que l'une des raisons de la réussite suédoise en la matière, c'est aussi ça? Est-ce que c'est l'idée que l'implication de la population a été mieux faite et mieux perçue chez vous qu'elle peut l'être en ce moment chez nous?
Alors, on peut dire déjà que la Suède est un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a des ressources biomasse dans tout le pays, à peu près les trois quarts du pays est couvert par les forêts boréales. On a aussi des barrages sur un peu tous les fleuves du nord de la Suède. Et en plus de ça, c'est un pays très large, comme je disais, donc le not in my backyard pour les éoliennes.
Ouais, ouais.
C'est un peu plus facile quand on peut mettre des éoliennes là où il n'y a pas d'habitation, en fin de compte. Donc l'acceptance est sûrement plus élevée du fait que les trois principales sources renouvelables ont des solutions assez plus simples en fait en Suède.
Lucien, bonsoir. Vous nous appelez de Toulouse,
oui.
Lucien.
Exact. Bonsoir à vous et merci pour vos émissions. Alors Lucien, oui, il se pose deux questions. Ouais, comment se fait-il que, moi j'ai travaillé en Suisse, qu'il n'y ait pas de camions sur les grandes nationales ni sur les autoroutes en Suisse et que nous ne sommes pas capables de le faire? Je fais une remarque à ce propos, en Suisse le réseau ferré est national, donc ce sont des fonctionnaires qui le font rouler. Et nous sommes contre les fonctionnaires en France. Curieux, je m'étonne. Par ailleurs, j'ai une belle rivière à côté de chez moi, très 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 encaissée, qui fait des crues l'hiver. Je pense que sur au moins une quinzaine de kilomètres, on pourrait retenir les eaux en mettant un barrage approprié, sans inonder les berges ni les voisins, et y mettre une centrale qui éclairerait les communes voisines. Voilà, pourquoi ne sait-on pas le faire?
Et merci Lucien pour ces remarques diverses. D'abord sur les camions en Suisse, comment est-ce qu'on interdit les camions sur les autoroutes en Suisse, Neil Makarov? Qu'est-ce qu'ils savent faire que nous ne savons pas faire en la matière?
Déjà, ils ont mis en place ce qu'on appelle une vignette poids lourd. Vous savez, la fameuse écotaxe.
Ouh là là, comme vous y allez.
Non mais c'est vraiment le cas et elle est à un prix significatif. C'est-à-dire que le poids lourd qui circule sur les routes suisses ou autrichiennes d'ailleurs, parce que les Autrichiens en sont aussi un exemple de ce point de vue-là, paye une redevance qui est très élevée. En France, c'est beaucoup moins cher de rouler sur une autoroute quand on a un poids lourd. Et ça, les transporteurs l'ont compris. Et du coup, en Suisse, ils passent par le ferroviaire. Le fret ferroviaire, c'est un transport qui est extrêmement bien développé en Suisse. Et plus il y a du transport ferroviaire, plus ils investissent dans l'infrastructure. Donc l'infrastructure est bonne, ce qui permet vraiment un report modal, c'est-à-dire passer de la route au ferroviaire. Et ça, de ce point de vue-là, en termes d'émissions, c'est très positif. Et en France, on n'a pas de pénalisation du transport routier. Donc de ce point de vue-là, on peut pas pénaliser ce mode de transport qui est le plus émetteur. Et on ne favorise donc pas le fret ferroviaire en contrepartie.
Et sans des dauphins, vous allez pouvoir nous le rappeler, c'est pas demain la fameuse vignette poids lourd, puisqu'on vient d'y renoncer à l'instant, en tout cas de la dernière version.
Alors, Elisabeth Borne a dit que c'était toujours en réflexion. Parce que pour l'instant, on peut dire qu'on a fermé la porte.
On a mis les choses un peu sous le tapis. Cédric Philibert.
Je voudrais dire un mot à propos des taxes carbone, parce que vous avez peut-être remarqué ces derniers jours, ça a suscité une certaine émotion dans le pays. Effectivement, la transition écologique ne peut être que solidaire ou ça marche pas, et c'est une des raisons pour lesquelles ça a peut-être mieux marché dans certains pays d'Europe du Nord. Il faut aussi peut-être trouver des nouveaux moyens d'aider les Français qui veulent changer de mode de transport et cesser d'être dépendants constamment des produits pétroliers. Par exemple, la voiture électrique, on donne une prime, un bonus important, mais ça ne suffit pas à réduire le coût d'achat qui reste élevé. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est faire ce qu'on avait fait pour l'accession au logement, des prêts à taux zéro, mais sur 10 ans, de telle sorte que le prix d'usage mensuel deviennent égal ou inférieur à celui d'une voiture thermique avec son entretien et son carburant. Et à ce moment-là, on verrait des gens qui disent « Ah oui, en effet, je peux changer, je fais 50 ou 100 km par jour, je peux changer, je peux me brancher chez moi quand je reviens, charger la nuit et utiliser ça, et ça me coûte moins cher. » Et si on n'arrive pas à faire ça, eh ben on aura du mal à convaincre les gens qui ne sont pas prisonniers d'un mode de transport et que du coup, en taxant ces produits, on les condamne.
Julien Morel, l'homme vertueux de ce téléphone sonne ce soir. Alors, quels sont les... Il y a eu des dons, des aides, de l'argent qui a été donné. Je sais pas si c'est vous, la Suède, qui êtes le plus important ou l'un de vos deux voisins, mais qui ont été donnés pour rouler en voiture électrique. Ça en est où, ça?
Alors, c'est la Norvège.
Ah ben voilà, qui... pardon, autant pour moi.
mais on se comprend entre Scandinaves.
Ouais.
Mais la Norvège a des aides, non pas seulement juste à l'achat des voitures électriques, mais ils peuvent rouler dans les voies bus, ils peuvent avoir des réductions sur les taxes du véhicule et plein d'autres possibilités pour faire en sorte que le véhicule électrique soit pas juste un coût d'achat, mais un coût, comme on dit, d'utilisation.
Mais vous allez m'arrêter si je me trompe, puisque effectivement, entre Scandinaves, vous comprenez. Moi, j'avais cru lire que, au début, ça a très bien marché, mais que finalement, les couloirs de bus sont très très encombrés par des voitures électriques.
Exactement.
Au final, et que l'argent qu'on a donné pour aider les gens à acheter ces voitures finit par gréver sérieusement les caisses de certains budgets. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se mordre la queue?
C'est un peu le problème de qui prendra la première note, c'est-à-dire l'Allemagne a fait pour les énergies solaires, la Norvège fait pour les voitures électriques et la Chine pour d'autres énergies renouvelables. Il faut un leader dans toutes les technologies et il se trouve que la Norvège a décidé de sortir du pétrole pour le transport et a choisi les voitures électriques. C'est un choix national. Je connais pas assez le cas de la Norvège pour savoir exactement pourquoi ils ont fait ça.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en voir la limite? C'est ça que je voulais dire, en fait. Puisque désormais, s'il y a plus de gens dans les couloirs de bus qu'il y en a dans les non-couloirs de bus...
Oui. Alors, cette règle-là, oui, j'ai entendu aussi des réclamations. Je sais pas où ça en est en ce moment, en Norvège.
En tout cas, chez nous, je crois que c'est le seul pays, mais je voudrais piéger personne, vous allez m'arrêter si je me trompe. Est-ce qu'il y a un autre pays qui autorise les voitures électriques dans les couloirs de bus pour inciter à l'achat et passer au travers de la circulation ou pas? Eh ben voilà,
Joker.
Eh ben non, mais Joker aussi. Donc, si quelqu'un le sait, qu'il nous appelle et nous le dise. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Est-ce que vous savez, vous, d'abord, s'il y a d'autres pays qui peuvent, qui admettent les voitures électriques dans les couloirs de bus?
Alors bon, moi, je n'ai pas appelé pour ça, mais je vais vous dire que je suis contre la voiture électrique, qui n'est qu'un transfert de pollution. Qui va produire l'électricité, qui les batteries, etc. Bon, je n'ai pas appelé pour ça, j'ai appelé pour vous demander de parler de pays qui sont extraordinaires, qui s'appellent le Portugal, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays qui sont déjà aujourd'hui à 100% d'énergie renouvelable pour leur électricité. Pas toute l'année, mais quelques jours, quelques mois par an. Il faut bien regarder, il faut pas regarder uniquement l'Allemagne, voyez-vous.
Absolument, Gérard, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure en introduction. Le Portugal, c'était combien de jours, Neil Makarov?
4 jours.
Oui, oui. 4 jours en énergie purement renouvelable. C'est que 4 jours. Mais ça dit quand même des choses d'un pays, quand même, et de ses volontés.
Oui et non, parce que ça dit aussi d'abord de ses ressources. Vous avez, en fait, dans le monde, une vingtaine de pays dont toute l'électricité est renouvelable parce qu'elle est totalement hydraulique. Mm-hmm. Vous avez le Paraguay, vous avez l'Albanie, vous avez, voilà, la Norvège est à près de 100%, l'Islande aussi, simplement parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de ressources hydrauliques. Donc voilà, l'Allemagne a 7% d'hydraulique dans son mix électrique, elle ne peut pas en faire beaucoup plus. On peut peut-être trouver une ou deux vallées équipées, mais en même temps, on a plutôt des directives européennes qui disent qu'il faut libérer les masses d'eau circulantes pour restaurer la vie sauvage, etc. Donc il va y avoir des petits gains ici, des petites pertes là. On ne va pas beaucoup développer l'hydraulique dans les pays matures économiquement. Voilà, après, vous avez des différences de ressources quand même. Au départ, ce n'est pas juste par vertu, c'est voilà, si vous avez la chance d'avoir beaucoup de montagnes, ben vous faites beaucoup d'hydraulique. Si vous n'avez pas beaucoup, ben vous êtes un peu plus coincé.
Et alors les choix du Portugal, par exemple, ça ressemblait à quoi, l'île Macarov? C'était effectivement de l'hydraulique, autant que je sache, et de l'éolien ou
c'est de l'éolien, principalement de l'éolien. Ils sont bons en pas encore très avancé sur le solaire, mais l'éolien a fait un boom. Aujourd'hui, ça représente 20% de l'électricité. Avec l'hydraulique, c'est 58% de l'électricité portugaise qui est verte. Donc, bien au-dessus de tous les États, en tout cas de la France. Je crois que c'est 4 fois plus que la France. Donc, et si vous regardez le Portugal, en effet, c'est un très bon exemple. C'est un pays du Sud qui était en pleine crise il y a quelques années. En crise économique et qui, pour des raisons d'autonomie électrique, a décidé de développer massivement les énergies renouvelables. Parce qu'elle...
sortie de dépendance.
C'est sa sortie de dépendance, tout à fait. Alors, ça ne concerne pas le pétrole, ils continuent à apporter du pétrole pour le transport, mais pour l'électricité, en tout cas, ils sont sur une trajectoire 100% renouvelable d'ici 2040. Et ça, en Europe, c'est pas les seuls. Il y a le Danemark, il y a la Suède, l'Allemagne veut 65% de renouvelables dans l'électricité en 2030.
Et donc, nous, 32.
Et nous, 40 dans l'électricité et 32 en général.
32 en général, oui.
Mais donc, il y a des trajectoires en Europe qui sont très ambitieuses sur les renouvelables. Et le Portugal est en effet un exemple dans le sud de l'Europe. Il y a d'autres exemples, mais voilà, c'est très positif.
Et qu'est-ce que ça dit quand on arrive à fonctionner donc, en purement renouvelable pendant 4 jours? Est-ce que ça nous apprend quelque chose même? C'est-à-dire, à quel moment on pourra se dire, on va pouvoir le faire effectivement beaucoup plus et beaucoup plus longtemps? Qu'est-ce que ça nous dit ces 4 jours-là?
Ça nous dit déjà une chose, c'est que on peut avoir des taux élevés d'énergie renouvelable variable, c'est-à-dire dépendant de la caprice de la météo, sans forcément mettre en péril la sécurité d'approvisionnement en électricité. Et ça, c'est important parce que il y a 20 ans, on nous disait on pourra jamais faire plus de 2% d'éolien et de solaire dans le mix électrique nulle part. Aujourd'hui, on a des pays qui sont on a le Danemark qui est en tête avec plus de 50%, on a des pays qui sont derrière avec 30%, on a des pays qui démarrent et qui sont à 10%. Enfin, voilà, tout le monde est en train d'avancer très vite et quelques pays européens sont en effet en avant de la troupe pour avoir beaucoup d'énergie variable. Hein. Je ne parle pas de l'hydraulique qui se stocke assez bien, mais qui est variable d'une année à l'autre, malgré tout, mais surtout de celles qui sont variables d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre, l'éolien, le solaire. Voilà, on a des pays européens qui sont à la pointe de l'intégration de ces énergies variables dans les mix et qui apprennent à le faire et ça donne beaucoup aussi de leçons à prendre pour d'autres pays dans le monde qui veulent faire la même chose.
Neil Makarov.
Oui, on est en train de construire l'Europe de l'énergie en ce moment. Alors, elle est au balbutiement de l'Europe de l'énergie. Mais si on veut vraiment réussir à avoir une Europe qui enclenche la transition énergétique, qui crée des économies d'énergie, qui développe les renouvelables, il faut vraiment une convergence des mix énergétiques ou en tout cas des transitions, des trajectoires. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'États qui développent massivement les énergies renouvelables et la France est assez immobile sur la question. Ça fait plusieurs années où les énergies renouvelables augmentent progressivement, mais assez faiblement. On est un des mauvais élèves européens. Et malheureusement, ça risque de peser dans la transition énergétique européenne. Donc, les choix qui sont faits par la France, ils sont regardés en dehors des frontières françaises, par l'Allemagne, mais aussi par les autres pays européens.
Ben justement, on a cette question sur franceinter.fr. Je me demandais s'il existait en France un domaine de l'environnement que nos voisins peuvent nous envier. Qu'est-ce que nos voisins nous envient, Neil Makarov? Ou Cédric Philibert, comme vous voulez.
Je crois qu'on n'a pas été mauvais dans la gestion de l'eau depuis la loi, les agences de bassin. On a des compagnies qui sont pas mauvaises dans la gestion de l'eau, je pense. Voilà, on a d'ailleurs des compagnies petites et grandes qui sont bonnes dans les renouvelables, mais elles en font au Mexique, aux Émirats Arabes Unis, en Australie, et elles en font plus là que chez nous, ce qui est un peu dommage.
Tiens, nouvelle question éolienne et qui nous ramène aussi au sujet Portugal. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, nous dit cet auditeur, que les antennes relais, notamment les antennes relais, pardon, se fondaient dans le paysage. Elles étaient déguisées en arbres, donc pas de grands pylônes en métal, mais des arbres un petit peu étranges. Pas d'éoliennes non plus en centre-ville, mais des zones qui sont moins polluées. Mais dans les zones qui sont moins polluées. Est-ce que vous vous souvenez en tout cas d'une évolution dans un pays comme le Portugal? Pas d'éoliennes en centre-ville, mais dans les zones qui sont moins peuplées. Pardon, ça y est.
Non,
en français, c'est ça.
Des éoliennes en centre-ville, je n'en connais pratiquement pas. Non, il y a une évolution technique très importante dans les éoliennes. On va vers des éoliennes plus grandes, plus grosses et moins nombreuses. Oui, mais moins nombreuses. En Allemagne, on est déjà dans une phase de ce qui s'appelle le repowering, c'est-à-dire on réinstalle des éoliennes à la place d'anciennes éoliennes. Elles sont plus grosses, plus puissantes. Elles ont des pales beaucoup plus longues et donc elles tournent.
Dis donc, ça doit être immense. Attendez, est-ce que c'est déjà gigantesque ?
Elles tournent plus longtemps. Donc elles sont beaucoup plus productives. Le coût baisse, le coût de l'électricité baisse considérablement, mais on a moins de mâts. On va vers une augmentation de la puissance totale et de l'énergie délivrée, surtout de façon très importante, avec moins d'éoliennes. Mais elles sont chacune plus grandes, plus hautes.
Mais alors, ça correspond à quoi, sérieusement? Alors, effectivement, j'ai bien compris qu'il y en avait moins, mais comme c'est déjà gigantesque, ça fait un mât de combien? Ça doit être immense, non? Énorme, ce que vous nous décrivez?
On peut avoir des choses qui plafonnent à 200 mètres de haut, oui.
Ah oui, quand même.
Des moyeux, des rotors qui sont à 120 mètres, oui.
Alors, je ne veux surtout pas vous piéger avec cette question. Y a-t-il des pays, nous demande cette auditrice sur franceinter.fr, qui ont interdit notamment les chauffages de terrasses? Il y a beaucoup de questions depuis ces 4 jours sur ce qu'on jette par la fenêtre, en fait. C'est ça que ça veut dire, en creux, l'histoire des chauffages de terrasse. Est-ce qu'il existe un mouvement ou quelque chose qui dit faut arrêter, tant pis, hein, si vous voulez être en terrasse, ben, vous aurez froid ou pas du tout? Est-ce que c'est sur la table, ça, Nina Makarov? Est-ce qu'on en parle, ouais, ou pas du tout?
Alors, pas à ma connaissance, c'est quelque chose peut-être à chercher, mais dans tous les cas, enfin, votre auditrice a raison, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique et les économies d'énergie, voilà, c'est la priorité. Parce qu'une fois qu'on aura réduit notre consommation d'énergie, donc à travers le logement, mais à travers l'utilisation de produits, d'informatique, par exemple, beaucoup plus efficace, et ben dans ce cas-là, on aura réduit notre consommation d'énergie et on pourra faire la seconde partie du chemin qui sont les renouvelables. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 100% renouvelable, c'est faisable. Mmh. Et c'est d'ailleurs souhaitable en termes d'emploi. On sait que 1 million d'euros investis dans les renouvelables, c'est 14 emplois, quand c'est seulement 6 emplois dans le nucléaire. Donc vous voyez, en termes d'emploi non délocalisable, il y a vraiment des bénéfices à investir dans la transition énergétique. Et par ailleurs, voilà, les coûts des renouvelables ont drastiquement baissé en Europe. C'est l'énergie la plus compétitive aujourd'hui et c'est celle qui nous permettra un jour d'arriver à 100% de renouvelables grâce aux économies d'énergie, notamment.
Tiens, puisque j'ai décidé de vous piéger ce soir, les uns les autres. En 2017, écoutez ça, des essais ont été faits dans le désert australien avec des voitures électriques mues par l'énergie solaire. Oui. Ces voitures sont-elles une utopie dans un monde où il fera de plus en plus chaud? Certes, elles n'étaient pas très confortables, nous dit cet auditeur, mais enfin, tout ça peut sans doute être amélioré. La voiture au solaire...
Ça fait longtemps, en fait, qu'il y a des courses de voitures solaires qui sont organisées aux États-Unis, en Australie...
Et on a des avions solaires, on a des explorateurs qui savent faire ça.
Ça ne veut pas dire qu'on va demain avoir une voiture solaire, ça veut dire que c'est quand même des challenges qui permettent de faire de l'intégration, de faire du progrès technique, de faire de la recherche, de chercher comment on peut y arriver. On pourra peut-être demain avoir en tout cas des panneaux solaires sur les voitures qui apporteront une partie de l'énergie des voitures électriques et de l'énergie de confort, par exemple, faire tourner la ventilation pendant qu'on n'y est pas, mais qu'on est sous un soleil très pénalisant, ça peut être un confort supplémentaire, etc. Des avions, l'avion solaire, c'était spectaculaire, ça a quand même donné une idée de ce qu'on peut faire. Alors on fait des drones solaires, on fait des avions sans pilote solaires qui peuvent voler en permanence. Donc voilà, ça permet de faire avancer la technique ou l'assemblage des techniques entre elles. Et donc de ce point de vue-là, c'est des choses très très utiles. Il y a beaucoup d'étudiants d'universités de technologie qui se lancent dans des challenges comme ça et c'est très très bien.
Julien Morel, puisqu'on a commencé avec vous, puisqu'on dit que la Suède donc a achevé, on va dire, ou quasiment sa transition énergétique, ça veut dire que pour un pays comme le vôtre, la prochaine étape, c'est quoi, en fait? Désormais, la priorité, elle est où?
La priorité, c'est dans les transports. C'est-à-dire, dans le court terme, il faut augmenter les volumes de renouvelables dans les transports. Il faut faire des voitures plus efficaces. Les voitures suédoises, c'est des voitures assez lourdes, comme en Allemagne, mmh, notamment. Et puis, sur le long terme, c'est comme on l'a dit aussi, il y a des industries lourdes, comme la sidérurgie ou le ciment, mmh, où il y a des solutions de long terme qui vont mettre du temps à être implémentées, mais les choses commencent déjà à être mises en place et on a une stratégie pour ces émissions aussi.
Eh ben, merci beaucoup. Merci aussi de votre présence dans le téléphone sonne. Tiens, je me dois de vous poser à tous les deux la question rituelle de ce téléphone sonne avant la COP24. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la planète? Si vous citiez une chose que vous faites, vous, Neil Makarov, vous diriez quoi?
J'ai réduit ma consommation de viande, ce qui est très bien dans l'alimentation, non seulement pour ma santé, parce que je mange de la viande de qualité quand j'en mange, mais j'en mange moins souvent, et ça permet de réduire les gaz à effet de serre de l'agriculture.
Et vous, Cédric Philibert?
Bah oui, j'ai refusé la petite bouteille en plastique que France Inter offre gentiment à ses invités. J'en ai une qui est est purement végétal, recyclable à l'infini et surtout remplissable à l'infini. Voilà, donc c'est un tout petit geste, hein, j'en fais pas des tonnes.
Non,
avec
mais
ça, quand même.
Petit geste par petit geste.
À propos du plastique, je peux dire une chose.
Allez-y.
Il y a un problème, c'est que dans les supérettes, quand on veut acheter des produits bio, c'est eux qui sont dans du plastique et les produits non bio qui sont pas dans du plastique.
Et oui.
J'espère qu'un jour on arrivera à une masse d'achat bio telle qu'on va inverser ça.
Ça, on n'est pas à l'abri des contradictions ainsi que des injonctions contradictoires. Sandy Dauphin, vous, qu'est-ce que vous faites pour la planète?
Moi, j'ai un lombricomposteur.
Ouais, mais j'ai vu votre voiture aussi.
Comme mon vélo.
Allez, la suite des téléphones sonne demain avec Claire Servargeon qui parlera des exemples des villes françaises, elles, qui sont vertueuses. Quels sont les exemples chez nous qu'on peut suivre aussi? Ce sera demain. Merci à tous et portez-vous bien.